Je voudrais remercier le groupe Louange pour ce temps de louange béni. On a affirmé des choses qui, dans ce temps de louange, qui sont importantes. On a affirmé en qui on croyait. Oui, je crois. Je crois en Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Et puis on a affirmé une autre chose importante, c'est que Dieu nous connaît par notre nom. Dieu nous connaît par notre nom. Merci au groupe Louange pour ce temps. Merci Noémie pour le temps que tu as pris. Que Dieu te bénisse dans ce qu'il t'a fait découvrir dans ton chemin. Quand on a parlé de ce culte avec Noémie, elle m'a dit, c'est long pour moi à préparer. J'ai déjà préparé depuis longtemps, je peux te donner tous mes chants. Puis moi je lui dis, moi aussi je suis déjà prêt en partie, je sais ce que je vais faire, tout. Et je crois qu'on n'aurait pas pu choisir les chants mieux. C'est ceux que j'aurais choisis. Peut-être, je ne sais pas, mais... Donc, oui, c'est des clins d'œil de la part de Dieu. J'aimerais vous parler ce matin d'un des livres les plus courts de la Bible. Ah, ça vous indique déjà quelque chose. Oh ben non. Voilà. Ah, bon. Tu peux remettre, Pierre, c'est bon. Un livre tout court, 25 versets. C'est pas le plus court, hein. Il y a deux lettres qui sont plus courtes. Il y a la lettre de Jude qui fait le même nombre de versets, et puis il y a la deuxième lettre de Jean qui fait 13 versets, la troisième lettre de Jean qui fait 14 versets, et le livre d'Abdias qui fait 21 versets. Donc c'est pas le plus court, mais c'est un petit livre de la Bible. C'est la plus courte lettre de Jean, de Paul. C'est la plus courte lettre de Paul. Voilà un extrait des fragments qui ont été retrouvés dans les manuscrits de Qumran dans les années 1950, un fragment de la lettre de Philémon. Voilà. Alors, c'est une épître, on l'appelle épître de Paul à Philémon, c'est une lettre. Donc une lettre envoyée, comme on reçoit du courrier. Il n'y a pas la poste à l'époque, hein. On verra qui l'a envoyée après, il n'y a pas la poste. Elle diffère de tous les autres écrits de Paul dans la mesure où elle n'est pas destinée à une église et elle ne comporte pas d'instructions pour une église. Il y a les lettres de Paul aux Romains, la lettre de Paul aux Éphésiens, etc. Celle-là est adressée à une personne. Elle diffère des autres lettres dans ce sens-là. Elle n'a pas non plus en son sein une doctrine fondamentale qui est développée par Paul, comme il aime le faire. Elle se présente plutôt comme une correspondance privée qui montre comment appliquer dans la vie quotidienne les principes énoncés dans les autres lettres. À savoir, dans celle-là, il y a un tas de sujets dans cette lettre. On doit un petit peu se rétrécir, mais dans cette lettre, on parle de l'amour, on parle de l'acceptation de l'autre, on parle du pardon, on parle de la grâce, on parle de la fraternité. Alors, on va lire cette lettre. De la part de Paul, mis en prison pour avoir servi Jésus-Christ, et de la part de notre frère Timothée, à toi, Philémon, notre cher ami et compagnon de travail, et à l'église qui se réunit dans ta maison, à notre sœur Appia et à Archippe, notre compagnon de combat, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. On a envie de dire Amen. Toutes les fois que je prie, je pense à toi, Philémon, et je remercie mon Dieu car j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi au Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que la foi que tu as en commun avec nous soit efficace en toi pour faire mieux connaître tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. Ton amour, frère, m'a donné beaucoup de joie et d'encouragement, car tu as réconforté le cœur des croyants. Ainsi, on s'arrête un petit coup, on a là une introduction qui fait vraiment l'éloge de Philémon et on voit l'amour que Paul a pour Philémon. On voit l'amour entre deux frères en Christ, ici. Et Paul continue. Ainsi, bien que dans la communion avec le Christ, j'ai toute liberté de t'ordonner ce que tu dois faire, je préfère t'adresser une demande au nom de l'amour. Tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant gardé en prison à cause de Jésus-Christ, je te demande une faveur pour Onésime. Il est devenu mon fils en Jésus-Christ, ici, en prison. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est utile à toi et à moi. Verset 12. Je te le renvoie maintenant, lui qui est comme une partie de moi-même. J'aurais bien aimé le garder auprès de moi, pendant que je suis en prison pour la bonne nouvelle, afin qu'il me rende service à ta place. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que tu ne fasses pas le bien par obligation, mais de bon cœur. Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour quelque temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Car maintenant, il n'est plus un simple esclave, mais il est beaucoup mieux qu'un esclave. Il est un frère très cher. Il m'est particulièrement cher, mais il doit l'être encore beaucoup plus pour toi, aussi bien dans la condition humaine que comme frère chrétien. Si donc tu me considères comme ton ami, reçois-le comme si c'était moi-même. S'il t'a causé du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. C'est de ma propre main que j'écris ça. Moi, Paul, je te le rembourserai. Entre parenthèses, je n'ai certes pas à te rappeler que toi, tu me dois ta propre vie. Il y a de l'humour, Paul. Hein ? Oui, frère, je t'en prie, accorde-moi cette faveur pour l'amour du Seigneur. Réconforte mon cœur au nom de notre communion avec Christ. Je suis convaincu. Au moment où je t'écris que tu feras ce que je te demande, je sais que tu feras plus encore. Et puis il finit sa lettre avec des petites salutations pour les amis. En même temps, prépare-moi une chambre, car j'espère que grâce à vos prières, je vous serai rendu. Epaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus, t'adresse ses salutations, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes compagnons de travail. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. C'est une lettre sympa. C'est une lettre, vraiment. Hormis Paul, qui écrit la lettre, quels sont les acteurs, les personnages principaux de cette lettre et qu'est-ce qu'on sait sur eux ? D'abord, à qui elle est destinée ? Philémon. On sait peu de choses sur lui, sur Philémon. On sait que c'est un chrétien de la ville de Colosse, un homme de bien. J'ai envie de dire un vrai chrétien, un vrai disciple, droit, bienveillant, généreux, probablement converti à la foi par Paul lui-même. En tout cas, vous avez vu les éloges qu'en fait Paul. Paul, c'est pas quelqu'un qui va passer de la pommade. Hein. Il va dire les choses telles qu'elles sont. Et là, il fait des éloges de Philémon qui sont impressionnantes. La femme de Philémon, Appia, était chrétienne aussi. Et c'est dans la maison de ce couple que se réunit l'église naissante pour rendre le culte au Seigneur. On pense peut-être que Philémon a été diacre ou ancien de l'église de Colosse. Voilà à peu près ce qu'on sait de Philémon. Je vous dirai une suite après. Onésime. Onésime, c'est le personnage principal de notre lettre, qui est à la fois le sujet de la lettre et l'enjeu de la lettre de Paul. Il est esclave. Il est l'esclave de Philémon. C'est-à-dire qu'il appartient totalement à son maître Philémon, qui a, selon le droit en vigueur à l'époque, droit de vie et de mort sur lui et sur sa famille. Ça nous choque, mais c'était comme ça à l'époque. Il faut qu'on s'y fasse. C'est un esclave qui, selon la formule, est au service de son maître. Est-ce qu'une condition comme ça peut être un service ? On se le demande aussi. Mais là, il y a une petite parenthèse que j'aimerais faire. Une étude de pas mal de spécialistes semble montrer qu'Onésime était en fait le petit frère de Philémon. Devenu esclave de son frère en dédommagement de fortes dettes que Philémon aurait épongées pour lui. C'était une tradition. Quelqu'un qui avait des dettes, s'il trouvait quelqu'un pour racheter ses dettes, il devenait esclave de cette personne, à vie ou pour un temps déterminé. Donc on a ceci qui probablement est l'explication de notre texte. C'était un fait courant à l'époque où ni les banques ni le crédit n'existaient. On peut penser qu'Onésime est finalement frustré de cette situation et qu'il cherche à en sortir par tous les moyens, quelle qu'en soit la méthode, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le fil de notre histoire ? Ça ferait une super intrigue pour un polar. Onésime, l'esclave, s'enfuit de chez son maître, en dérobant au passage, semble-t-il, une somme d'argent, après tout. Et il se retrouve à Rome, où il va faire la connaissance, dans une prison, de Paul. Voilà à peu près ce qu'on sait d'Onésime. Pour quelle raison est-il là dans la prison avec Paul? Il avait commis des délits? On ne sait pas. La Bible ne le dit pas. Est-ce qu'il était venu en prison visiter quelqu'un? Ou peut-être, je ne sais pas, il travaillait à une société qui amenait la nourriture, ou il balayait, ou je ne sais pas, dans la prison. Est-ce qu'il a cherché à rencontrer spécialement Paul, dont il savait peut-être qu'il était l'ami de Philémon? Paul avait une certaine renommée. La parole ne donne aucune explication à ce sujet. Et en fait, peu importe. Ça nous est égal, en fait. Elle nous dit simplement que suite au témoignage de Paul qu'il a rencontré en prison, il s'est converti à Jésus-Christ. Voilà ce qu'on sait, voilà ce qui est important. N'oublions pas qu'il est un esclave en fuite. On peut penser aussi que chez Philémon, son maître, il avait certainement déjà entendu l'évangile. Rappelez-vous, c'est dans la maison de Philémon et d'Appia que se réunit l'Église. Vu le profil de Philémon, les éloges qu'en fait Paul, il est plus que probable que ses esclaves étaient aussi présents lors du culte, ou en partie, ne serait-ce que pour servir. Voilà donc Onésime converti à Jésus-Christ. Le voilà enfant de Dieu. Le voilà frère en Christ de Paul et de son propre maître, dont il est esclave et qu'il vient de trahir. C'est quand même une situation cocasse. Alors pourquoi cette lettre? Et quel est en fait son but? Ou quel est pour nous aujourd'hui l'enseignement de cette lettre? Il y en a une foule. On peut parler du pardon, on peut parler de l'amour, on peut parler de la relation entre le maître et son serviteur. On peut parler d'une foule de choses. Je retiendrai, moi, deux pistes qui me semblent intéressantes et qui s'adressent à deux groupes de personnes et deux groupes de personnes qui sont représentées ici aujourd'hui. Ce n'est pas du tout restrictif, hein. Il ne faut pas vous sentir accablé par les groupes que je vais définir là. Mais c'est la réalité. Dans le premier groupe, il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est curieux dans une église. Mais ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur. Ceux qui ne sont pas convertis, qui ne vivent pas selon l'évangile. Peut-être une personne qui vient là pour la première fois, qui est rentrée parce qu'elle a vu de la lumière. Peut-être quelqu'un qui est intéressé, mais voilà. Qui n'a pas fait ce pas de devenir enfant de Dieu. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui sont chrétiens, convertis, et qui donc vivent selon l'évangile de Jésus. Et là, il y a deux enseignements pour chacun de ces groupes. Alors, on va commencer par le premier. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire une nuance, ou pas encore Jésus, comme leur sauveur et leur Seigneur. Et c'est à eux que je veux m'adresser ce matin dans ce groupe-là, précisément. Ceux qui n'ont pas fait ce pas, j'ai envie de dire. Et c'est quelque chose de positif, ce n'est pas quelque chose de restrictif, ce que je vais dire, au contraire. Ce texte nous montre comment la vie sans Dieu est au mieux en dents de scie. Au mieux. Regardons la vie d'Onésime. Elle n'est faite que de haut et de bas, de zig et de zag. Libre, au début, avant la lettre, puis esclave. Peut-être de son frère. Vous imaginez le truc. Puis de nouveau libre, pour lui, mais après s'être enfui. Puis encore à la prison, à Rome, peut-être emprisonné, on ne sait pas. Et de nouveau après, libéré par Jésus, mais humainement, encore drôlement emprisonné chez son frère. Pas libre du tout, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Jusqu'à quand? et comment sortir de ce cercle vicieux de la vie dans notre monde sans Jésus-Christ. En dents de scie encore, Onésime, endetté, puis sans dette, mais esclave, puis de nouveau redevable. Mais comment, réfléchissons, comment enrayer cette fuite en avant sans avoir sur la tête le poids de devoir payer toute sa vie pour quelque chose? Ou encore Onésime, on l'a lu dans notre texte, utile à son maître, puis inutile puisqu'il est parti, puis utile à Paul à Rome, puis Paul le renvoie chez son maître. Quelle utilité? Qu'est-ce qui va devenir? Quelle incertitude! Est-ce qu'on doit passer toute sa vie, frères et sœurs, est-ce qu'on doit passer toute sa vie à se demander à quoi on sert finalement? Quelle utilité on a? Sans compter la précarité finalement de cette vie, oscillant toujours entre la difficulté de la vie, l'espoir et la crainte autour de la mort. Y a-t-il quelque chose après la mort finalement, si on ne connaît pas Dieu? Et moi, où je vais aller? Où je vais aller, moi? Ce que Paul veut dire et veut nous dire aujourd'hui, c'est que tout homme a la possibilité de se libérer réellement de tous les jougs qui l'accablent. De tous les jougs qui l'accablent. Et qui le font tourner en rond. Et que cela est nécessaire à sa propre vie. Mais il nous explique, au travers du cheminement d'Onésime, que cela, humainement, n'est pas possible. Cela n'est pas possible humainement. Malgré tous nos efforts, toutes nos tentatives, notre énergie, nous n'y arrivons pas par nos propres moyens. Alors on essaye, peut-être toute sa vie, mais on n'y arrive pas par nos propres moyens. Depuis 3 jours, j'ai une monstre rage de dents. J'ai la tête, là vous la voyez comme ça, mais elle est comme ça en fait. Cette nuit, j'espérais être en forme pour ce matin, et j'ai eu une insomnie au moins 3 heures de temps. J'étais reprendre un doliprane. Puis ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Et puis j'ai chanté, j'ai révisé les chants de chorale alors toute la nuit. Hein. Mais je sais toujours pas les paroles. Et puis j'ai prié, puis tout d'un coup je me suis dit, mais t'es dans la situation d'Onésime, tu veux faire par toi-même, tu veux dire, écoute, ça suffit maintenant, maintenant je veux dormir, maintenant ça suffit, tout. Et puis j'ai tout posé à Dieu. Ça ne veut pas dire que je me suis endormi tout de suite, mais par contre je me suis reposé, et même dans l'insomnie je me suis reposé, et j'ai trouvé que c'était génial. C'est ce qui arrive à Onésime, qui va finalement se retrouver à la case départ. En ayant tout trouvé, il se retrouve à la case départ. Il se retrouve de nouveau dans la situation où il va être esclave chez son maître. Ça, c'est pas de peau, hein. Onésime ne sera libéré de son fardeau, de ses fardeaux, que lorsqu'il aura compris où est la vraie vie, auprès de Dieu, qui seul est tout-puissant pour nous libérer. Dieu souverain, Dieu tout-puissant, Dieu qui nous aime. Son amour n'a pas de fin. On l'a chanté ce matin, on l'a lu ce matin. Et vous relisez ce psaume, vous verrez le nombre de fois qu'il y a écrit « Son amour n'a pas de fin » dedans, c'est juste incroyable. Voilà ce que disait aux Hébreux Dieu de son peuple qu'il avait choisi par amour. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Voilà, il a posé ça. Mais il continue après, il dit, et c'est une évidence, mais choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est si simple que ça. Choisis la vie avec Dieu afin que tu vives. Onésime a choisi la vie. Onésime, il a chanté avec nous « Oui, je crois » tout à l'heure. Il a chanté avec nous ce « Oui, je crois ». Il est libéré de tous ses fardeaux. Il n'a plus de dettes. Jésus a payé pour lui à la croix. En plus, Paul lui dit qu'il va payer pour lui ce qu'il a en monnaie sonnante et trébuchante. Jésus a payé pour lui à la croix. Il a maintenant un but dans cette vie. Il sait ce que ça veut dire « utile ». Il ne sait pas encore à quoi, mais il sait ce que ça veut dire « utile ». Une vie totalement nouvelle qui commence pour lui. Elle est basée sur une grande certitude. Elle a maintenant un sens, il sert à quelque chose. Cette vie, elle est vraie. Elle est éternelle. Elle vaut la peine chaque jour. En sachant que nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve. Nous ne savons pas ce qu'est fait demain. Nous savons simplement que Dieu sera à nos côtés à chaque instant, à chaque seconde, à chaque centième de seconde, et qu'il pourvoira à nos besoins comme il l'entend lui. C'est quand même quelque chose de dingue. Paul dit à Philémon en parlant d'Onésime, autrefois il t'était inutile, maintenant il est utile à toi comme à moi. Voilà quelqu'un qui avait une vie zéro, tout d'un coup, il est utile à tout le monde. Et ça ne vient pas de lui. Onésime va devoir, une vie active, une vie au service de Dieu, mais utile, une vie engagée. Et c'est ça une vie au service de Dieu, c'est une vie engagée. Et vous verrez que ce n'est pas si facile que ça après, une vie engagée. Onésime va devoir porter lui-même la lettre chez Philémon. C'est lui le timbre. Il se trouve timbre-poste, lui. Vous vous rendez compte la lettre qu'il doit apporter chez Philémon? Est-ce qu'il va entrer? Est-ce qu'il va être zigouillé avant? Il y a un célèbre évangéliste qui disait d'Onésime, c'est l'homme qui a pris la clé des champs et qui l'a rapportée. J'aime beaucoup cette image. Alors voilà pour le premier groupe. Mais pour le deuxième groupe, ceux qui connaissent en Jésus-Christ leur Sauveur, leur Seigneur, Paul apporte un enseignement pratique. Il nous montre comment la foi bouleverse notre vision des relations humaines. Elle nous permet de choisir de vivre. Je dis bien de choisir de vivre et non pas de subir la vie. Elle nous apprend à obéir par amour et non pas par religion. On ne croit pas en l'Église évangélique protestante de Prévesin. Si vous croyez en l'Église évangélique protestante de Prévesin, vous êtes mal barré. On croit en Jésus-Christ, mort, crucifié, ressuscité. Obéir par amour, non pas par religion. Elle fait de nous des êtres libres, ouverts, heureux. Ouais. Heureux, des êtres heureux. On est heureux de vivre avec Jésus-Christ. Communicatif. Rappelez-vous, Philémon, chrétien modèle, a légalement le droit de vie et de mort sur Onésime. C'est la punition pour un esclave fuyard sans autre forme de procès. Il peut aussi l'envoyer en prison pour vol. Imaginez-vous un instant à la place de Philémon, ouvrant la porte à Onésime, de retour avec sa lettre. Je ne sais pas s'il va parler, hein. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important pour Philémon? Le droit légal? Son droit? Mon droit à moi? Oh. Ou la relation d'amour désintéressée entre les hommes que propose Dieu, Dieu qui lui a pardonné ses péchés au prix de la mort de son propre fils? Autrement dit, il me faut jour après jour écouter ce que dit Dieu. Rechercher ce que demande Dieu, ce que me demande Dieu. Choisir la vie au nom de l'amour. parce que Dieu nous a aimés le premier. Et non pas choisir une vie guidée par mon droit à moi et mon propre devoir basé sur la justice humaine. Paul écrit encore à Onésime, « Malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir. » C'est quelqu'un, Paul. Hein, je pourrais te dire, tu vas faire ça et ça et ça et ça. Et Philémon, il filerait droit, je pense. Non, il lui dit, « Malgré cela, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour. » Au nom de l'amour. Vous imaginez les relations d'amour qu'il peut y avoir entre ces trois personnes. Il y en a deux qui se haïssaient sûrement déjà. Alors il y a Paul qui aime Philémon et Philémon qui aime Paul, mais les deux autres, il n'y a pas de relation, il n'y a plus d'ailleurs, puisqu'il s'est tiré. Il n'y a plus rien. Mais là, au nom de l'amour. Et puis il dit d'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher, il l'est tellement pour moi. Combien le sera-t-il plus pour toi en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur ? Imaginez la relation si effectivement Onésime est le frère de Philémon. Il retrouve à la fois celui qu'il avait comme esclave, son petit frère libre, et un frère en Christ, et un frère de Paul. Et Paul continue en disant « par solidarité envers moi ». C'est la communion chrétienne, ça, ce mot, la solidarité ici. Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Vous regarderez dans cette lettre le nombre de fois qu'il y a le mot « comme ». Paul dit toujours « utile à toi comme à moi », etc. Et Paul se met toujours au même niveau que Philémon. Et met finalement Onésime au même niveau que lui. Donc il fait dire à Onésime, à Philémon tout d'un coup, « Fais gaffe, Onésime, il est au même niveau que toi aussi. » Mais il le lui dit avec amour. Si tu as été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose, porte-le sur mon compte. Je te paierai, tu peux être sûr, je te paierai. Paul, il n'avait pas le sou. Mais il dit, je te paierai. Situation impossible. Impossible de par les relations entre les gens de ce monde. Vous pouvez prendre les relations là-dedans, c'est pas vivable ici. C'est pas vivable. Dans notre monde, hein. Situation logique est tellement simple entre frères et sœurs en Christ. Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 12, on trouve ceci. Quel est le premier de tous les commandements ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Et là, il ne dit pas si le prochain est frère en Christ ou pas. Quel texte à méditer cette lettre ? À lire, à relire, en se mettant tour à tour à la place de Philémon et à la place d'Onésime. Alors, pour terminer cette histoire, il est intéressant de noter que la fin n'est pas écrite en suivant. Vous avez vu verset 25, il y a une bénédiction qui est envoyée et qui part avec la lettre. Que les événements qui font suite à cette lettre sont peu ou pas mentionnés dans le texte biblique et il faut aller au-delà pour trouver une idée. Une étude approfondie laisse à penser qu'Onésime est tout à fait rentré à Colosse, que Philémon l'a reçu avec charité, lui offrant naturellement le pardon demandé par Paul. Onésime est donc devenu libre, doublement libre, libre humainement et libre divinement, j'ai envie de dire, libre spirituellement, mais libre aussi de circuler. Qu'est-il devenu ensuite ? Est-ce qu'il a été utile ? Et à qui ? Philémon l'a renvoyé à Rome pour assister Paul, dont il est devenu un compagnon fidèle. À tel point que l'apôtre lui a confié avec Tychique le soin d'apporter à Colosse la lettre aux Colossiens. Il a aussi servi de timbre-poste pour la lettre aux Colossiens. Onésime, un esclave, en fuite chez son maître. Il aurait, guillemets, ensuite été nommé évêque d'Éphèse après la mort de Timothée, semble-t-il. Philémon et Onésime ont vécu selon l'Évangile, en véritables chrétiens, témoins du Christ, avec les conséquences qu'à l'époque, ça impliquait. Le procureur d'Asie, mis en place par les Romains, voyant qu'Onésime prêchait avec courage malgré les persécutions, le fit arrêter, l'envoya à Tertulle, gouverneur de Rome, qui le mit à la torture et le fit lapider en l'année 95. Et on pense que Philémon a été martyr sous le règne de Néron et qu'il a été dévoré par les bêtes sauvages dans le cirque à Rome. C'est dur, mais leur vie était auprès de Dieu. Et ils ont été témoins du Christ, coûte que coûte, pour l'éternité. Je casse un peu l'ambiance avec la fin. Mais c'est l'engagement que nous demande le Christ, de lui être fidèle jusqu'au bout. Et il a dit qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, que nous puissions recevoir de la part de Dieu un témoignage comme celui de Paul au verset 7, « J'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as été, en effet, tu as réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. » Amen. Je vous invite à un temps de silence et de recueillement en se mettant devant Dieu, chacun. Seigneur, je suis ému à la lecture de cette lettre, de me rendre compte combien je ne suis rien du tout et combien toi tu es tout. Combien je pense personnellement pouvoir tout faire tout seul et combien finalement tout repose sur toi. De comprendre comment tu changes nos relations. À nous tes enfants, de comment tu vis cet amour au travers de Paul, au travers des frères et sœurs. Et je veux te bénir pour mes frères et sœurs, permettre de partager ensemble cet amour qui est utile, sans a priori. Sans a priori de savoir d'où je viens, de savoir qui je suis et ce que j'ai fait, mais avec la seule certitude que nous sommes frères et sœurs et que tu nous demandes une vie comme frères et sœurs, coûte que coûte. Et Seigneur, probablement il en a coûté très cher à Onésime et à Philémon, il leur a coûté leur vie probablement. Alors Seigneur, on veut te remercier parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Merci de nous parler, merci parce que ta parole est vivante aujourd'hui. Merci parce que le timbre avec lequel tu l'envoies n'est pas périmé, mais qu'il arrive jusqu'à nous. Seigneur, on veut te prier qu'on reste pour toi, tes disciples, conscients de ton amour et conscients de la force que tu peux nous donner en ton nom. En ton nom. En ton nom, nous ferons des merveilles. Seigneur, en ton nom. C'est ton nom qu'on veut glorifier. À toi toute la gloire. Merci pour le salut, merci pour ta mort à la croix, merci pour ta résurrection, merci parce que tu vis et qu'on est tes frères et tes sœurs. Merci Père de nous accueillir dans ta maison. on y est bien. Et j'ai envie d'y rester avec mes frères et sœurs. Béni sois-tu, Père. Amen.
Merci pour ce qu'on a reçu ce matin, pour ce temps passé ensemble. Merci à chacun des intervenants. Alors, suite aux travaux d'hier, les cloisons ont été en partie reconstruites. La librairie est toujours accessible. Par contre, pour y aller, il faut se glisser. Se glisser parce que ce n'est pas très large, parce que la porte touche les plaques de placo qui ne sont pas encore posées. Mais il y a quand même un accès. Alors voilà, n'hésitez pas à en profiter. C'est donc toujours au même endroit, derrière la protection au fond de la salle. Voilà, ouais, le dépôt de Noël, voilà. Ouais. Le dépôt de Noël est bien arrivé, donc servez-vous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Les calendriers sont aussi disponibles. Anne-Marie sera là au fond de la salle, sur la droite, là. L'exposition sur la réforme, qui était à Saint-Genis, est maintenant à l'église catholique de Ferney-Voltaire, et vous pouvez encore aller la voir cet après-midi. Demain, il n'y a pas le Femme Club, parce que le Femme Club est en visite. Donc, pas de rencontre tout ensemble, mais elles sont quand même actives. Samedi prochain, suite des travaux, donc on n'a pas besoin d'aide particulière pendant la journée pour les travaux. Par contre, on aura besoin d'aide de nouveau pour le nettoyage. C'est important, vous savez, quand on fait des travaux, il y a de la poussière qui se glisse de partout. Alors, il y a eu, ce serait bien qu'il y ait deux personnes samedi dans l'après-midi qui puissent être disponibles. Venez me le dire à la fin du culte. Ce serait bien que ça tourne un petit peu. Là, ça a été deux fois les mêmes personnes. Donc, ce serait, voilà, sentez-vous concerné. Ça ne demande pas de grande capacité. Il faut juste être à disposition. C'est facile. C'est accessible à pratiquement tout le monde. Je te laisse la place, Jean-Paul, pour la banque alimentaire.
Alors on a parlé d'être utile. Alors vous voyez aucun lien entre le message et la banque alimentaire. Mais est-ce que tu peux juste afficher vraiment, regardez, nous avons besoin de monde pour la banque alimentaire. Engagez-vous, s'il vous plaît. Ça, c'est juste pour Colruyt. Imaginez, pour Colruyt, on va faire deux choses séparément. Je vais parler de Colruyt. J'ai besoin d'une personne de confiance qui serait disposée pour ouvrir le vendredi matin. C'est tout simple, je peux lui expliquer exactement, mais c'est tout simple, vraiment besoin. Et puis, il faut qu'on voyez le nombre de personnes qui me manqueraient pour Colruyt. Ça, c'est juste pour un créneau de deux heures et demie. Hein. Voilà. Donc, on a besoin de personnes pour Colruyt énormément. Et puis, l'autre, c'est plus dramatique encore. Voilà. Tu peux mettre le carrefour... Pardon, excuse-moi. Voilà. Là... On a besoin de monde aussi, énormément. C'est un gros magasin. Le magasin Carrefour de Senies est le magasin qui rapporte le plus au département de l'Ain. C'est pour vous dire. On va récolter, j'espère, 7, 8 ou 9 tonnes de marchandises en deux jours. Donc, on a vraiment besoin de monde. Moi, je ne peux absolument pas assurer tout seul là 4 postes dans le magasin. Je ne suis pas manpower, hein, j'arrive pas, je n'ai pas des... avec six bras, ça serait un peu juste. Donc il faut vraiment les jeunes, les plus vieux, donner 2h30 de temps entre vendredi et samedi, n'importe quand. Vous avez les créneaux, ces papiers sont au fond, vous pouvez vous inscrire déjà, vous pouvez encore le faire sur le site aussi. Puis j'ai pensé à une chose, c'est pas que notre église, c'est la pastorale, mais il y a aussi un autre qui est sur Saint-Genis, et Élodie a pris aussi en charge un autre magasin à Gex, donc voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, moi c'est cher à mon cœur, notre prochain, et le Christ est dit, ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais il dit à la suite du verset, ce que vous n'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est pas pour mettre la pression et faire du chantage, Mais c'est hyper important de se rendre utile là. Il y a 6 000 personnes dans l'Ain qui ont besoin de la banque alimentaire. Voilà. Donc voilà, je vous mets ça à cœur. Inscrivez-vous, s'il vous plaît, et remettez un petit peu de temps. Qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir un adulte avec un enfant, il n'y a pas de souci. Envoyez pas un enfant tout seul, mais si vous voulez venir un adulte avec un enfant, c'est super parce que ça met les enfants dans le chemin. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est une expérience que vous n'oublierez jamais, tellement elle va être enrichissante pour vous. Merci.
Je vous rappelle notre fête de Noël, donc qui aura lieu le samedi 9 décembre à 20h30 à la salle Gaston Laverrière. Il y a encore des flyers au fond de la salle, prenez-les, distribuez-les, c'est important que cela soit connu et que les gens puissent venir. Dimanche passé, on avait Basile Langoul qui nous a donné le message. Et puis, il a eu une mauvaise nouvelle. Il va se faire opérer demain matin d'une petite tumeur cancéreuse en ambulatoire à l'hôpital de la Tour. Mais c'est important de penser à lui, de prier pour lui, de le soutenir dans nos prières et de vraiment d'être à ses côtés aussi par rapport à cette intervention. Annelise est toujours hospitalisée à Loye. Pensons à la visiter. Ça l'encourage, elle, ça lui permet aussi de partager ce qu'elle vit et c'est aussi pour le coup très enrichissant lorsqu'on la visite. Anne-Laure va accoucher jeudi prochain par césarienne parce que c'était plus sage de faire comme ça, donc voilà. On veut penser à toi, on veut penser à vous. Que Dieu bénisse ce moment, garde aussi. Et bénisse aussi la venue de cet enfant. S'il n'y a pas d'autre annonce à partager, je vous invite à vous lever. Oui, oui, dis-moi, viens voir. Viens, viens ici.
Cet après-midi, à 17h, à Nyon, enfin à Duillier, au Cèdre, c'est le lancement d'un CD au profit de l'association Compassion, qui a été fait par Jean-François Bussier et toute une équipe. Et Valentine et moi avons enregistré avec eux, nous avons fait toutes les répétitions pendant un an. Nous avons un peu bouleversé aussi quelques répétitions de notre chorale. Et cet après-midi, c'est le lancement à 17h. Donc si vous ne le savez pas encore, bah, je vous invite à venir nous écouter. Voilà, merci.
Raymond, tu avais aussi quelque chose à partager ? Non ? Je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets dans Hébreux 13. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine, bon dimanche, soyez bénis.